Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Gilles Secasse. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois un historien qui s'est beaucoup intéressé au groupe de chasse Normandie-Niémen, une unité de combat de l'armée de l'air française. Il faut savoir que le 25 juin 2012, le Normandie-Niémen est réactivé officiellement avec des rafales monoplaces sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Et depuis le 3 septembre 2015, le Normandie-Niémen est à nouveau rattaché à la 30e escadre de chasse réformée, le même jour sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan. Jean-Marc Baudet, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Alors, dans une première émission, il y a 3 semaines, vous avez évoqué pourquoi vous aviez travaillé sur cette histoire de Normandie-Niémen, c'est-à-dire que, en deux mots, vous avez, avec vos élèves, fait
une exposition
et puis aussi un voyage qui vous a entraîné sur les pas de ces pilotes qui sont de véritables héros, comme vous l'aviez expliqué la dernière fois. Alors, justement, si vous le voulez bien, revenons un peu à ces héros qui étaient de tout milieu.
Oui, c'est vrai que le groupe donc, qui part en novembre 1942 en URSS, qui est composé donc, de 16 pilotes et puis de 24 mécaniciens, plus un médecin, un interprète, etc., est extrêmement divers sur le plan social et culturel. Il y a aussi bien des gens qui ont appris à voler dans l'aviation populaire au moment du Front populaire, des gens qui étaient issus de familles modestes, et puis des gens, disons, comme le comte de la Poipe, par exemple, qui, lui, est issu de familles aristocratiques. Sur le plan religieux, il y a aussi bien donc, des gens qui sont des juifs, des chrétiens, des gens qui ne sont pas du tout religieux. On trouve aussi des descendants de familles russes blancs et de russes bolcheviques. Donc une extrême diversité, et c'est ce qui fait que cette dimension humaine assez étonnante, puisque tout ce groupe va fonctionner là-bas et s'entendre, disons, pour lutter avec un même objectif. Ils arrivent à Ivanovo, qui est une base proche à nord-est de Moscou, en novembre 1942, ce qui est évidemment pas la meilleure période pour arriver, pour découvrir l'URSS. Et donc ils auront en fait 3 mois pour s'adapter. 3 mois sans combattre, 3 mois pour se former. Alors, ça va s'adapter d'abord à la vie, et en particulier au froid.
Froid, hein, ouais.
Voilà. Et découvrir les
moyens.
Parce
que ça, c'est moins combien
C'était moins, d'après ce que le bouquin d'Yves Courrière ou de Joffre, c'est moins 25. Hein.
Ah, oui.
Voilà. Mais il y a eu des moins 30, des moins 35. Ce qui pose des problèmes, bon, bien sûr, au quotidien, mais aussi pour voler.
Ah oui, c'est ça.
Et puis, ce qui va poser des questions, des problèmes énormes pour les mécaniciens. Donc, la vie, donc le froid, on l'a dit, c'est la neige, bien sûr, ce qui pose aussi des problèmes, des hauteurs de neige qui font que parfois l'hélice est plantée dans la neige.
Ah oui.
Tout simplement, des choses auxquelles on ne pense
pas. Le dégel.
Le dégel, parce que là c'est le passage à la boue très rapidement. Mmh. Donc, c'est aussi s'habituer aux vêtements, sont frappés par mouillés. C'est aussi les bottes en. Alors, les fameuses Valenki, qui sont des bottes en feutre, quand il fait très froid. Ce sont des grosses bottes en feutre, c'est un peu côté
c'est
éléphant.
Russe, hein,
ça, c'est russe, ouais. Les Valenki, ouais, c'est une fortune. Hein. C'est des bottes très, très massives, mais qui font que quand il fait très froid et très sec, hein, ça ne marche pas dans l'eau, mais et qui garantit une chaleur. Voilà.
Oui.
Et il découvre aussi des bottes en peau de chien aussi, qui, ça,
vous les avez vues.
Les Valenki, oui. Hein, les Valenki,
et comment vous les avez vues?
Eh bien, on a, par un hiver très froid, parce qu'on faisait une séance de sachlik. Alors, ce sachlik, c'est des brochette, hein, c'est au mois de février, par moins 25, quand on allait dans les petites chaussures, on a du mal, même dans les bottes d'après-ski. Et par contre, dans les Valenki, effectivement, oui, on a les pieds bien au sec. Mais il faut qu'il fasse très froid et très sec.
On trouve ça qu'en Russie.
Ah oui, oui. Et même maintenant, c'est devenu très, très rare. Enfin, ils ont des versions maintenant un petit peu modernes des Valenki, parce que ça vaut une fortune, ça. C'est du feutre, donc c'était fait dans les fermes. Enfin, voilà. Donc, il y a les vêtements. C'est aussi l'habitat. L'habitat souvent assez frustre parce qu'en fait en bois, hein, les bois de bouleau coupés ou de pin coupés très très vite et puis recouverts de terre, donc les fameuses zemlyanka dont il parle. Et donc, il faut savoir que les bases vont se déplacer très, très vite au gré du front. Et l'armée rouge va avancer très vite.
Ouais.
Et donc, sans arrêt, au cours des campagnes, ils avancent. Et donc, à chaque fois, il faut un habitat provisoire.
Mais vous nous avez parlé de diversité. Comment ils se comprennent?
Alors, les Français, entre eux, se comprennent.
Oui.
Mais alors, l'autre question, c'est la langue.
Voilà.
C'est la langue. Alors, il y a un ou deux Français qui parlent russe.
Ah oui.
Et donc qui vont servir d'interprète. Le reste, la grande question, c'est en vol. Parce qu'il faut voler ensemble, il vaut mieux comprendre les ordres, fonctionner ensemble, etc.
Ouais.
Donc les Français vont faire un travail d'apprentissage du vocabulaire basique et des codes utilisés dans l'armée soviétique pour 130. Mais il y aura des bavures. Hein. Il y a eu, je crois, un ou deux pilotes français qui ont tiré par erreur sur des avions de chasse soviétiques.
Ah, ouais.
Donc, évidemment, les choses n'ont pas été très simples. Hein.
Non, j'imagine.
Bon. Il y a la nourriture aussi qui les a un petit peu surpris. Alors, il faut savoir quand même que la logique dans l'armée rouge, c'était la nourriture était proportionnelle non au grade, mais à la proximité du combat. C'est-à-dire, quand on était au combat, on avait droit à un repas chaud. Et ceux qui étaient à l'arrière n'avaient pas de repas chaud. Les mécaniciens, rien n'était prévu pour eux.
Oh là là.
Donc les mécaniciens français et les mécaniciens russes dormaient sous les avions de nuit et devaient se nourrir par eux-mêmes. Et donc les mécaniciens français n'ont pas tenu. Il faut savoir que par exemple, dans les périodes de froid, ils devaient arroser, réchauffer l'eau. C'était des refroidissements à eau. Il fallait à chaque fois, toutes les 2-3 heures, réchauffer le moteur parce qu'il fallait qu'il soit capable de partir aux ordres. Et donc les mécaniciens français vont être ramenés en France au bout d'un an.
Ils ont quel âge ?
Les mécaniciens sont plus âgés, vont être ramenés en Moyen-Orient et remplacés par des mécaniciens russes. Et là aussi, il faut se comprendre et c'est compliqué.
Oui.
C'est compliqué. Une seule chose qui revient assez souvent et qu'on pourrait au début, c'est l'ennui, la déprime.
Comme pendant la guerre 14.
Voilà, donc ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a eu apparemment des phases de déprime.
Bon, ils mangeaient quoi alors?
Alors, il y avait des choses qui passaient moins bien, c'était la fameuse kacha. Kacha, c'est une espèce de bouillie de millet, quoi. C'était assez basique, assez basique.
Pomme de
terre, un peu de viande, mais assez basique, ouais. Mais eux avaient droit à un repas chaud. C'est la même chose chez les tankistes. Hein. Les tankistes avaient un repas chaud par jour et les autres n'avaient rien. Hein. On avait interviewé des militaires, les colonels disaient, nous, on mangeait de l'herbe. Hein. Les tankistes avaient, en 43, on mangeait de l'herbe, nous. Hein. C'est pendant que les tankistes avaient un repas chaud par jour. C'était la logique dans... Par contre, au combat, c'était les 100 grammes de vodka de Staline. Ça, c'était la règle. Donc, il y a la langue, bien sûr, on l'a vu, les rites, mais il y a aussi l'encadrement. Il faut savoir que ce groupe de chasse est intégré donc, à un régiment d'élite de l'armée rouge. Et ils sont aussi fermement... Alors, il y a l'encadrement militaire, les ordres. Il faut respecter les ordres, bien sûr, et la stratégie. Mais il y a aussi le NKVD qui est là en permanence. Et qui notamment...
Qui surveille
autant les soviétiques d'ailleurs que les Français, et qui interdit notamment les relations entre l'encadrement militaire féminin qui était chargé de l'intendance. Théoriquement, il ne devait pas y avoir de lien. En fait, il y a eu jusqu'à un mariage, je crois. Mais bon, ça c'est la petite histoire. Et puis, plus compliqué, les conditions de combat. Et donc les pilotes français vont avoir le choix entre du matériel, les soviétiques ont proposé matériel américain, matériel britannique, donc des Spitfire, ou matériel russe. Et après avoir essayé et avoir bien discuté, apparemment, les pilotes français ont décidé de prendre le matériel russe le plus adapté, rustique et le plus efficace et le plus adapté aux conditions de climat et aux conditions de combat. Et c'est les fameux YAK. Qui seront alors d'abord YAK, c'est une abréviation de Yakovlev, c'est du constructeur, donc le YAK 1, puis après il y aura le YAK 9, et le top du top, ça a été le YAP 3. Ce sont des avions en bois, bois et toile, très peu de métal. Et...
C'était solide, quoi.
C'était léger, c'était très maniable apparemment. Solidité, ben non, c'était... évidemment... Alors après, les derniers étaient un peu plus métallisés, mais les premiers, c'était bois et toile. Hein. Voilà, et c'est donc ils seront opérationnels en fait en février 43, et ce sera donc le début de l'épopée militaire qui va s'étaler sur 3 années, 43, 44, 45.
Donc là, c'est entre Moscou et la frontière.
Voilà, ils partent de Moscou pour aller direction l'épopée va se terminer en Prusse orientale, c'est-à-dire au Königsberg, et ça en 3 campagnes. Donc la première campagne va s'étaler donc de mars à novembre 43.
Oui.
La seconde campagne.
Alors, quelles étaient leurs missions alors?
Alors, leur mission était souvent donc de protéger les bombardiers, par exemple, qui allaient donc bombarder les lignes allemandes. C'était donc la protection contre la chasse allemande. Ça a été aussi l'accompagnement des troupes, des chars, puisque c'était essentiellement des combats de chars. Hein, c'était des combats monstrueux dans la grande plaine russe, notamment au niveau de Koursk au sud. Mais la bataille d'Orcha, par exemple, ou tout à l'est de la Biélorussie, ont été des batailles gigantesques de chars. Et donc, il fallait absolument protéger les chars au sol de la chasse allemande. Donc ça, c'était leur mission. Après, il y a eu des missions purement de reconnaissance, des missions aussi de combat pour aller détruire...
Alors, il y a beaucoup de morts.
Chez les pilotes français,
oui.
Je pensais le dire dans le bilan, mais il y a eu 45% de pilotes sont restés là-bas. Hein. C'est 45% de l'effectif total. C'est-à-dire sur 95 pilotes qui sont allés au total sur 3 années là-bas, pratiquement la moitié sont morts là-bas. Quoi. Mais dès le début, hein, je crois qu'à un moment donné, ils avaient réduit, je crois, à 2 escadrilles. Il n'y avait plus moyen d'en faire 4 parce qu'il y avait tellement de morts que ça... Les premières victoires ont correspondu très vite aux premiers morts. Hein. Ça a été très très rapide, oui. Donc la première campagne les a amenés en gros de Moscou à la frontière biélorusse. C'est la région de Smolensk par exemple. Et c'est là que les pilotes français ont commencé à gagner la reconnaissance de leurs homologues russes et de la population, enfin russe ou soviétique. Je crois que c'est Dejoffre qui raconte comment dans les villages par exemple il y avait des banderoles en l'honneur des Français, des amis français, dès 43. Alors bien sûr, on est dans un pays soviétique, la propagande n'est pas non plus totalement spontanée, hein, c'est bien organisé, et c'est là qu'on retrouve l'idée du symbole. Il faut que ça marche, tout le monde a besoin de cette escadrille. Et donc là, ils vont commencer à s'imposer, même s'ils ont du mal à rentrer dans la discipline soviétique, ils sont un petit peu... Ils ont envie d'en faire beaucoup. Enfin, c'est le sentiment de faire du zèle. Et évidemment, ça se traduit parfois par des erreurs, même si tout le monde reconnaît les qualités exceptionnelles de pilote de beaucoup d'entre eux. Mmh. Donc, beaucoup de pertes. Hein. Je crois que un chiffre que j'avais trouvé, c'est qu'au mois d'octobre 1943, il y a 80% de pertes sur le premier groupe. 80% de pertes.
C'est quand même beaucoup.
C'est énorme. Et donc, il va falloir envoyer régulièrement des pilotes
pour remplacer.
Donc la deuxième campagne, c'est mai 44 à août 44. Alors ça, c'est la grande bataille du front biélorusse. Et c'est là que les pilotes français vont être particulièrement efficaces dans le franchissement du Niémen.
C'est le fameux fleuve.
Le fameux fleuve qui était une ligne de défense donc, de l'armée allemande. Et les pilotes français vont être particulièrement efficaces. Et enfin, donc, la troisième campagne, donc, de janvier à mai 45, qui les amènera donc, en Prusse orientale, au Königsberg.
Eh bien, voilà. Si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтоб услышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Мне в холодной землянке тепло. От моей негасимой любви.
Je suis toujours avec Jean-Marc Bollé et nous évoquons Normandie-Niémen. Alors, nous venons d'écouter une chanson, Jean-Marc Bollé. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi cette chanson ?
Alors, cette chanson a pour titre donc en russe « Zemlyanka » et donc c'est un terme apparemment difficile à traduire, c'est la cabane en rondin ou la cabane en terre. Donc c'était les abris de fortune que faisaient les partisans russes et les aviateurs donc de l'escadrille quand ils se déplaçaient de base en base. Donc en fait, cette chanson est une chanson qui date de 1941. Elle est très célèbre, elle était très célèbre dans les années de guerre en Russie, même si ce n'est pas du tout une chanson de guerre, hein, c'est une chanson d'amour, c'est en fait la femme qui est dans sa cabane et qui évoque son soldat et les partisans, etc., qui sont au combat, alors qu'elle, elle est dans cette cabane en terre, etc.
Et quand vous êtes allé en Biélorussie avec vos élèves, vous l'avez entendu
Celle-là, on nous l'a passée, de même qu'on nous a passé, bien sûr, le chant du Normandie et autres chansons.
Des gens le chantent eux-mêmes
Zemlyanka, on ne l'a pas entendu chanter, on l'a entendu chanter sur disque, mais les chants du Normandie-Niémen, oui, et on l'a même chanté à Mortagne.
Ah oui, et vous avez encore quelquefois des Russes qui viennent à Mortagne?
Bah écoutez, ils sont venus régulièrement, puisqu'ils sont venus tous les deux ans, donc 2004, 2006, 2008, jusqu'en 2014. Et nous sommes retournés aux années impaires, donc 2005-2007, jusqu'en 2015, la dernière fois, février dernier, 2015.
Et cette année,
donc un groupe viendra, en dehors de l'échange scolaire, mais viendra donc pour interpréter des chants et danses traditionnelles biélorusses.
Et ça aura lieu
Fin juin, au moment de la fête de la musique.
Bon, on prend rendez-vous pour que nous...
Voilà, donc au fil des années, nous avons créé une petite association qui s'appelle Rencontre Biélorusse 61, et donc avec les petits moyens que nous avons, nous les invitons et nous les faisons venir.
Voilà. Très bien. Alors nous en étions au bilan de cette tragédie héroïque, on peut dire.
Oui, donc le bilan, moi j'ai utilisé le terme, alors tragédie héroïque, c'est une expression employée par De Joffre dans ses mémoires. Parce qu'effectivement, tragédie, parce que ça a été des pertes terribles, hein, on évoquait tout à l'heure. Donc il y a eu au total 95 pilotes qui se sont succédés là-bas dans ce groupe de chasse. Et il y a eu, alors selon les sources, ça varie de 1 ou 2, mais c'est autour de 43-45 morts. Donc on tourne autour de 45% de pertes, avec des années, enfin notamment la première année, particulièrement terrible. Il faut savoir aussi que les prisonniers, il y a eu quelques prisonniers, c'est-à-dire des gens qui sont tombés, qui ne sont pas morts en vol, mais qui sont tombés au sol derrière les lignes allemandes. Ceux-là, leur sort était réglé d'avance parce qu'ils étaient considérés, comme la France était un pays qui était en paix, il ne devait plus y avoir de soldats, ces gens-là étaient considérés comme des francs-tireurs, donc comme des terroristes, et donc étaient exécutés. Et la plupart du temps, alors qu'on ne respectait pas, ils ne bénéficiaient pas des conventions internationales. Il y a eu un célèbre notamment qui était, parce qu'il était brûlé, et a priori on ne l'aurait pas soigné, d'autres étaient exécutés d'une balle, enfin il y a eu quelques... La règle était terrible, il ne fallait surtout pas tomber derrière les lignes allemandes. Il y a eu il y a eu quelques prisonniers qui s'en sont sortis, mais c'est très très rare. Donc ça, c'est l'aspect terrible. Par contre, sur le plan militaire, c'est effectivement héroïque parce que le bilan est absolument impressionnant. Donc je passe sur les chiffres, mais en 20 mois de combat, oui, il y a eu donc plus de 5000 missions. Et pour tous ces pilotes, à peu près 870 combats et 273 victoires homologuées officielles. Ce qui fait d'elle la deuxième escadrille en termes de réussite du régiment, de l'armée rouge, de l'aviation soviétique. Ah ouais. Ce qui est un des plus brillants palmarès également des escadrilles françaises. Et puis, côté héroïque, c'est évidemment la façon dont ils ont été honorés par l'Union soviétique dès ces années-là. Donc ça a commencé...
Des héros, vraiment.
Véritablement des héros. Alors, il y en a quatre. Alors, je passe sur les titres parce qu'on sait que les soviétiques sont très friands de titres multiples. Mais enfin, quand même, il y a parmi ces soldats, donc quatre qui ont bénéficié du titre de héros de l'Union soviétique. C'est excessivement rarissime. On a évoqué aussi le fait qu'ils aient eu le droit d'accoler le nom de Niémen au nom de leur régiment. Ça aussi, c'est par ordre de Staline. Ils ont été décorés de décorations multiples. Enfin, ils sont vraiment... je passe sur les détails, mais la propagande a été extrêmement efficace. Il y a eu pas mal de pilotes qui ont été récupérés par des paysans, par des partisans, etc., et qui ont été traités vraiment comme des héros. Enfin, c'était... véritablement héros sur le plan, au plan politique général, et héros aussi dans la population russe. Dernier signe de reconnaissance, Staline leur a fait cadeau de leur avion. Ils sont rentrés donc en France, au Bourget, avec leur avion, cadeau, et les mécaniciens russes sont rentrés avec eux. Ils ont été accueillis comme des héros, bien sûr. Ah, et puis après, ces avions sont tombés, évidemment, n'ont pas été entretenus parce que la guerre froide est arrivée, etc. Il y a eu aussi ce qui fait la légende du Normandie-Niemen, c'est des histoires d'hommes qui sont absolument incroyables. Bon, il y a l'histoire de Marcel Lefebvre, qui est le Normand, qui lui est mort brûlé le 5 juin. Alors dans le film, on lui annonce le débarquement. Alors qu'en réalité, vraisemblablement, il était mort le 5. Il est mort en hôpital à Moscou le 5 juin. Il y a eu l'amitié entre les pilotes français et leurs mécaniciens. Alors ça, c'est l'histoire qui est relatée dans le film, parce que ça relève de la légende véritablement du Niemen, mais c'est l'histoire de Deussen. Alors quand ils se déplaçaient de base en base, ils emmenaient les mécaniciens. Les avions étaient des monoplaces, mais ils avaient un logement dans le fuselage de l'avion, et ils démontaient la tôle, et le mécanicien se mettait dedans, et il se déplaçait comme ça. Sauf que le fameux Deussen a été touché. Enfin bon, projection d'huile sur le cockpit, etc. Et donc, il n'y voyait plus rien. Et tout le monde lui criait « saute, saute, saute ». Et évidemment, il n'a pas sauté parce qu'il avait son mécanicien derrière.
Ah.
Et donc, ils sont morts tous les deux. Et ça, c'était, si vous voulez, parmi les soviétiques, c'est une... le sacrifice du pilote français pour son mécanicien. Donc des histoires comme ça, il y en a effectivement beaucoup. Enfin, des histoires d'amitié, y compris avec le général, le fameux général Sakharov, là, qu'on présente comme à la fois un physique d'ours et de rock, enfin un personnage impressionnant et qui en fait était un des plus ardents défenseurs du groupe. C'était véritablement des histoires d'hommes. On sent qu'il y a eu une véritable amitié entre tous ces gens-là.
Et vous avez eu tout ça dans des lectures de...
Alors ça, oui. Et puis le côté héroïque, on l'a vécu directement en Biélorussie.
Comment cela ?
Je dis deux exemples. La première année où nous sommes allés donc dans un établissement scolaire à Borisov, qui est tout près, donc qui est à l'est de Moscou, c'est près de la Bérézina. Et là est tombé un pilote français, Gaston. Et donc, dans cette école est entretenu un petit musée avec des moyens du bord, avec beaucoup, beaucoup de documents, des vêtements, etc., plein de qui ont été récoltés au fur et à mesure, et en mémoire de Jacques Gaston, qui est mort là.
Oui.
Et puis l'autre exemple, c'est effectivement, je crois, l'année d'après, on rentrait à la basilique orthodoxe de Minsk, et un homme d'une quarantaine, cinquantaine d'années, en nous entendant parler français, est venu vers nous, tendait la main, et Franzus, Normandie, Niemen. Donc
on a des frissons, hein. C'est vrai,
voilà,
c'est émouvant.
C'est très, très émouvant, et on a pris l'ampleur, je veux dire, il y avait pendant plusieurs années, donc un monsieur Zverev... était un des derniers vétérans mécaniciens qui avait connu les Français et qui venait à chaque fois qu'on allait à Minsk, qui venait nous rendre visite en uniforme. Appelant Tovarich, parce que pour lui, l'Union soviétique existait toujours, et Tovarich, ses camarades, et voilà. Donc c'était des grands moments.
Alors justement, maintenant, on en arrive à ce cette mémoire aujourd'hui que nous avons de ce fait.
Oui, donc la mémoire est très très entretenue, donc tant en Russie que
en France.
Alors en France aussi, donc en Russie, Biélorussie, j'ai déjà évoqué effectivement ce qu'elle était. Alors en Russie, donc il y a les tombes des soldats, même si les corps ont été après rapatriés, mais donc dans le carré, dans le cimetière de Moscou, il y a des carrés, donc des soldats, à côté des soldats napoléoniens. C'est régulièrement fêté par l'ambassade de France, les autorités russes. Je crois même que les autorités russes ont participé financièrement à la création du musée au Bourget. Donc en France, En France, on a la mémoire a été un petit peu, je dirais, un petit peu abandonnée du fait de la guerre froide. Alors, ce qui reste quand même, il y a un musée très. Alors, le musée qui était aux Andelys, qui a été fait par une petite association avec le frère de Marcel Lefebvre. Les Andelys, c'est près de Rouen, hein, sur les bords de Seine. Oui. Et qui, pour des raisons financières, a été finalement racheté, rapatrié, et qui est au Bourget aujourd'hui. Et le dernier yacht qui a été restauré a volé lors du dernier salon. Donc, ils entretiennent la mémoire. Alors, vous aviez évoqué aussi la présence, l'existence d'une escadrille,
oui.
L'escadrille donc Normandie-Niemen, qui est une des grandes escadrilles effectivement de l'armée française. Et puis donc le fameux film de Dréville. Et puis donc aller sur Internet, il y a de nombreux sites, dont le site du Bourget, qui est très très bien fait sur toute cette histoire, sur toutes ces aventures de ces hommes.
Alors, il y a aussi donc, le musée des Andelys.
Le musée des Andelys, alors, qui n'existe plus maintenant, qui a été donc ramené au Bourget. Tout le matériel, il y a un matériel véritablement très, très riche et surtout beaucoup de petits objets, matériel apporté tant par les Soviétiques que par les familles françaises.
Et au musée du Bourget, c'est facile de trouver
Oui. Vous allez sur le site, vous allez au Bourget, sur le musée. Donc, il fait partie du musée de l'aviation. C'est une partie.
Eh bien, un grand merci, Jean-Marc Baudet. Je crois que nous allons finir d'ailleurs sur l'hymne. Peut-être ce chant, oui,
du Normandie.
Du Normandie. Vous allez nous en dire deux mots, peut-être beau chant.
C'est un très beau chant, alors qui est à la fois sur le plan de la mélodie, en russe évidemment très très émouvant, même si on ne comprend pas le russe. Mais donc dans la deuxième partie, enfin dans le deuxième temps, passer un petit morceau des paroles françaises qui sont excessivement émouvantes sur l'amitié entre ces soldats.
Un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Jean-Marc Baudet.
Merci à vous.
Я волнуюсь, заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где Неман несет свои воды, там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары, а советские парни в рядах партизан воевали в долине Луары. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Что ты делаешь нынче, французский собрат? Где ты ходишь теперь, где летаешь? Не тебя ли окликал я, бонжур, камарад? Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы из фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одних, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Я приеду в Париж, все дома обойду, под землею весь город объеду. Из Нормандии летчика там я найду, мы продолжим былую беседу, мы за правое дело.